Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à la 15e édition de notre cycle « Les Dor Vador, la musique hébraïque de génération en génération ». Bonjour Léo.
Bonjour.
La semaine dernière, nous avons présenté Salomon Zulzer, le grand cantor de Vienne du 19e siècle, et son ami et voisin Franz Schubert, qui a été sollicité par Zulzer, aussi bien que d'autres compositeurs de la ville, pour enrichir et rénover le répertoire des chants hébraïques existants à l'époque. Rappelons que Zulzer arrive très jeune à la capitale autrichienne, vers l'âge des 20 ans, où il fait connaître toute l'étendue de son talent musical, et l'année suivante, en 1825, il s'y installe pour prendre ses nouvelles fonctions de chazan à la grande synagogue de la ville récemment inaugurée. Nous avons évoqué comment, lors de la dernière année de la vie de Schubert, en 1828, celui-ci répond à la commande de Zulzer en composant la musique pour le psaume 92, Tov Leodos, que Schubert écrit en hébreu, un fait inhabituel pour un compositeur chrétien. Mais pas tant que cela, n'est-ce pas Léo? Puisque nous avons déjà abordé d'autres musiques hébraïques composées par des non-juifs, comme celle des...
Lidarti,
voilà, un demi-siècle plus tôt.
Hein, ouais.
Et Lidarti, qui était originaire de la même ville de Vienne. Mais Schubert est le premier compositeur de premier ordre qui va accepter une telle commande et qui passera à l'histoire comme un fait rare. Mais enfin, il faut relativiser les affirmations qui disent que ceci est un cas unique pour un compositeur de premier rang, de premier ordre, car en son temps, Schubert n'était pas du tout connu ni célèbre comme il va le devenir bien plus tard, des dizaines d'années après sa mort. Je vous propose, chers auditeurs, chères auditrices, de découvrir pour commencer une œuvre très peu connue de Zulzer, puisqu'elle ne s'inscrit pas dans la liturgie et n'est donc pas en usage dans les synagogues. Il s'agit d'un piyut, un poème, inspiré des citations bibliques d'Ibn Gavirol, un savant juif espagnol du Moyen-Âge. Le poème « Shochene vote Homer », qui parle de l'âme des êtres disparus, a été composé vers l'an 1050, et, comme nous venons de le dire, n'a pas trouvé sa place dans la liturgie juive actuelle. La musique a été composée par Zulzer, très probablement à la mémoire de son ami Franz Schubert, disparu en novembre 1828. Écoutons. Cette belle interprétation par les voix d'hommes du Zemel Choir de Londres, dirigée par Malcolm Singer, montre l'excellent niveau de la célèbre formation anglaise dont nous avons eu l'occasion et la chance avec les polyphonies hébraïques de Strasbourg de partager un certain nombre de concerts depuis quelques années. Et Léo, tu me disais que cette musique te faisait penser à quelque chose.
Ah oui, ça me fait penser à un Requiem.
Eh ben oui, exactement. C'est tout à fait dans l'esprit de la chose. Hein, un hommage funèbre à l'ami chéri de Zulzer qui venait de décéder. À présent, je voudrais vous présenter un court extrait d'une autre partition de Zulzer basée, comme un très grand nombre de ses publications, sur un air traditionnel, celui du Kol Nidre. Je pense ne pas me tromper en disant que dans son édition Shir Tzion de 1839-40, Zulzer a été le premier à éditer cette prière inaugurale du jour du grand pardon, qui sera reprise par la suite par de très nombreux compositeurs, aussi bien pour le culte que pour la scène de concert. Parmi les versions les plus connues de cette deuxième catégorie, c'est-à-dire de la musique de concert, se trouve la pièce pour violoncelle et orchestre de Max Bruch, compositeur chrétien, mais aussi la version pour chœur et orchestre d'Arnold Schoenberg, dont on aura l'occasion d'en parler dans des prochaines émissions. Enfin, il faut mentionner que la version de Zulzer a eu certainement un impact sur Louis
Lewandowski.
Non, sur Louis van Beethoven,
hein,
qui vivait à la même époque à Vienne. Lorsque celui-ci a été sollicité pour composer une cantate pour l'inauguration de la nouvelle synagogue, Beethoven était pris par d'autres occupations et il a refusé la commande. Mais il a certainement gardé la mélodie du manuscrit de Zulzer et l'a utilisée dans son quatuor à cordes opus 131 en do mineur. Effectivement, on retrouve la mélodie du Kol Nidre dans un quatuor de Beethoven. Étant sourd, Beethoven, depuis de nombreuses années, il ne pouvait pas connaître cet air que en ayant regardé la partition de Zulzer, qu'il avait écrit, ce dernier, en 1826, donc peu de temps après son arrivée à Vienne et une année avant la mort de Beethoven. C'est tout de même extraordinaire que tellement de choses en relation avec la musique juive et la musique classique se soit passée en ce court laps de temps entre Beethoven, Schubert, Zulzer et dans un espace relativement restreint. Juste dans l'année qui précédait la mort respective de l'un et de l'autre, 1827 pour le premier, 1828 pour le second, hein, Schubert. Écoutons donc la version du Kol Nidre de Salomon Zulzer, interprétée ici par les membres du Zemmel Choir de Londres, toujours sous la baguette du chef et compositeur Malcolm Singer. Après ces courts extraits du Kol Nidre, je vous propose d'entendre l'un des airs les plus connus de la production de Zulzer, celui de la sortie des rouleaux de la loi, qui est chanté dans la très grande majorité des synagogues dans le monde. Je parle de Vayehi Binsoa Aaron, qui contient la célèbre mélodie de Ki Mitzion Tetzé Torah, car de Sion sortira la Torah. Je pense que tu connais, Léo. Dans toutes les synagogues, on chante cet air-là, ouais, sans savoir forcément que c'est des Zulzer. Ici, on va écouter la belle interprétation de Zamir Choral de Boston, sous la direction de son chef, Joshua Jacobson. Vous apprécierez, j'espère, le rôle important joué par la partie d'orgue qui a été composée par Zulzer pour l'introduction qui précède l'intervention du cantor. Au niveau du rituel, il s'agit du début de l'ouverture de l'arche pour sortir les livres de la loi, les rouleaux qu'on appelle les sifrei Torah, avant leur lecture publique. Puis l'intervention des quatre voix chorales, soprano, alto, ténor et basse. Rappelons ici qu'au départ, il s'agit des voix des garçons et hommes mélangés. Ensuite, dans la seconde partie du XIXe siècle, ce sont les chœurs mixtes qui prendront place progressivement dans toutes les synagogues, surtout les grandes synagogues européennes. Et c'est dans ce type de formation que nous écoutons les versions ici présentées. Après ces trois compositions de Zulzer, il convient de rappeler, Léo, que ce style de musique tout à fait nouveau pour l'époque a été précédé au XVIIIe siècle par d'autres musiques assez différentes musiques qui s'est trouvées dans une sorte d'impasse et qui ont, si on peut le dire ainsi, un peu mal vieilli. Tu vas voir de quoi je parle tout à l'heure. Zulzer, en arrivant à Vienne, n'a certainement pas retrouvé un désert musical, mais une certaine tradition qu'il ne fallait surtout pas rejeter en bloc. Il est donc clair qu'il a arrangé, adapté, réharmonisé et amélioré un certain nombre, ou plutôt un nombre important, d'airs traditionnels, tout en apportant de nombreuses compositions originales sorties de sa plume. Je vous propose maintenant d'entendre un air parmi les très nombreux qu'il a dû retrouver à son arrivée à Vienne. Il s'agit d'un extrait des prières de la Shemoneh Esrei, l'ensemble des 18 prières du début de l'office du soir, Vahavo Secho, ou Ve'avatcha, comme on dit en hébreu moderne, avec ton amour. Le compositeur de cet air se nomme Wolf Singer, et c'est un compositeur originaire de la Moravie, qui est une région de la Tchécoslovaquie faisant partie à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Écoutons.
Altosir mimenu, veamu. sir mimeno leolamim, leolamim, leolamim. Ve'avoscha, al tosir mimeno. Sir mimenu leolamim, 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 leolamim.
Bah, tout joli qu'il soit, n'est-ce pas, Léo, parce que c'est pas moche comme morceau, mais tout joli qu'il peut être, il faut convenir que le style de cet air, que l'on pourrait appeler rococo ou préclassique, s'adapte a priori peu ou pas au caractère des prières en question et peut être facilement associé plutôt à l'esthétique, à la mode à l'époque du XVIIIe siècle,
ouais.
C'est-à-dire le siècle juste avant Zulzer. C'est pourquoi, au bout d'un moment, quand il était question de réformer, de s'adapter au temps moderne annoncé, entre autres par la progressive émancipation des Juifs en Europe et surtout dans les grandes capitales des empires, il fallait faire avec les moyens des nouvelles tendances et surtout avec les raffinements des nouvelles esthétiques imposées par les grands artistes de l'époque tels que Mozart, Haydn, Beethoven ou Schubert, les quatre piliers de l'école classique viennoise du tournant du XVIIIe siècle. L'introduction progressive des voix des femmes dans les chœurs et l'installation de l'orgue dans les nouvelles synagogues, faisait ainsi partie de cette belle révolution qui promettait un avenir plein d'espoir pour les populations juives très longuement marginalisées et écartées de la vie sociale et culturelle en Europe lors des siècles précédents. La musique était donc un reflet de tous ces changements que l'on peut également apprécier dans l'architecture des synagogues et dans la manière plus générale, dans tous les aspects de la vie courante. Dans cette perspective, rappelons également que Zulzer, comme il avait fait appel à Beethoven puis à Schubert, demande également la collaboration étroite d'autres compositeurs de sa ville, un peu moins connus de nos jours, tels que Joseph Dreschler, organiste et professeur de composition notamment du jeune Johann Strauss, ou Ignaz von Seyfried, élève de Haydn et ami de Mozart et Beethoven, qui est devenu professeur de composition et ami des Zulzer.
Le monde est très petit.
Eh oui, ils se connaissaient tous, hein, il ne faut pas croire. Ou encore Wilhelm Würfel, qui était un pianiste et pédagogue, qui fut notamment le professeur de Frédéric Chopin au conservatoire de Varsovie. Ou encore Joseph Fischhoff, un autre élève de Seyfried, qui devient professeur de piano au conservatoire de Vienne. Tous ces beaux mondes, comme tu dis, petits mondes, collaborent donc à la constitution du nouveau répertoire synagogal mené par Zulzer. Leurs compositions seront publiées par Salomon Zulzer et seront adoptées et chantées dans de très nombreuses synagogues en Europe. Écoutons un exemple de ces nouveaux types de musique hébraïque encouragés et soutenus par Zulzer. Il s'agit d'un nouveau Alléluia, comme on en a déjà écouté plusieurs. Voilà, je disais donc, c'était les Alléluia de Joseph Drechsler. En plus des rythmes et formes d'origine populaire comme les marches et autres danses à la mode de l'époque, on retrouve souvent chez les compositeurs du 19e siècle des fugues. Tu sais ce que c'est une fugue, Léo ?
Oui, oui, bien sûr.
La toccate et fugue, hein, de Jean-Sébastien Bach, qui ne connaît pas.
Entre autres.
Donc les fugues qui évoquent la gloire du passé polyphonique de la musique baroque et reflètent une forme savante, comme c'est le cas dans cette courte pièce que je vous propose d'écouter, que Zulzer inclut dans son volume 2 de Shir Tzion. C'est bref, « Chadesh Yomeinu Kekedem »,« Béni nos jours comme jadis ». Il s'agit des trois mots finales et des conclusions de la prière Etzraïm, arbre de vie, et il suggère, Zulzer suggère, d'insérer au milieu de sa propre composition Etzraïm pour servir comme conclusion alternative. Et cette fugue est signée Wilhelm Würfel, et le professeur, qui est le professeur de Chopin. Elle est interprétée ici par les solistes de l'ensemble vocal Hébraïka. C'est court, mais c'est beau, hein, n'est-ce pas Léo, pour ceux qui aiment les fugues et la musique baroque. Voilà un bel hommage à la musique du passé. Pour conclure notre émission, consacrée aujourd'hui à Zulzer et ses contemporains, je vous propose d'entendre la belle version du Zemmel Choir de Londres, bien sûr, les psaumes 133, Inematov, Humanaim, qu'il est bon et agréable que les frères soient ensemble, que Zulzer a mis en musique de manière particulièrement inspirée. Ainsi se termine notre émission. À la prochaine et merci Léo.
Merci à toi.